Chers amis des cellules, bonjour. Nous commençons aujourd'hui un petit cycle de 2 ou 3 séances qui nous aidera à approfondir notre présence à la messe, à la célébration de l'Eucharistie. Dans un premier temps, nous observerons la messe à la lumière de l'Évangile. Dans un deuxième temps, nous observerons les parties de la messe pour nous aider à entrer dans l'Alliance en voyant comment elles sont une interpellation et appellent une réponse de notre part. Et dans un troisième temps, nous prendrons un moment pour regarder de quoi est composée la prière eucharistique. Concentrons-nous aujourd'hui sur la messe à la lumière de l'Évangile. La messe comporte 2 grandes parties, la liturgie de la parole d'une part et la liturgie eucharistique d'autre part, mais elles sont si étroitement liées qu'elles forment une unité. En effet, la célébration dresse la table aussi bien de la parole de Dieu que celle du corps du Seigneur où nous sommes instruits et restaurés. Autour de ces 2 grandes parties, il y a 2 petites parties qui sont, d'une part, les rites d'ouverture de la célébration avec les rites pénitentiels, et puis, à la fin de la liturgie, les rites de conclusion avec la bénédiction et l'envoi de l'assemblée. 2 grandes parties, donc, encadrées de 2 parties plus petites. Cette structure de la messe n'est pas sans rappeler la progression des évangiles eux-mêmes, en particulier de l'évangile selon saint Marc. Le rite pénitentiel, en effet, évoque les exhortations de Jean-Baptiste et du Christ. « Le temps est accompli, le royaume des cieux est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Nous entendrons d'ailleurs dimanche prochain l'Évangile qui reprend ces paroles. L'ouverture est donc un appel à la conversion, manifestant que c'est maintenant le moment favorable, c'est maintenant le jour du salut, c'est maintenant que le Seigneur vient pour transformer les cœurs, et que nous placer en vérité devant lui n'est pas le moment qui nous ferait être détruits parce que nous nous reconnaîtrions pécheurs, mais bien au contraire, parce que nous nous reconnaissons pécheurs devant lui, nous recevons la grâce de la purification, la grâce de la transformation, la grâce de la sanctification. Les évangiles se poursuivent ensuite par les enseignements et la vie publique de Jésus, venu accomplir les Écritures. Ce sont les différents discours qu'il prononce, les paraboles, les enseignements et explications qu'il donne aux disciples qui s'approchent de lui pour lui demander des explications, ce sont les guérisons qu'il accomplit, que ce soit les démons chassés, que ce soit les maladies guéries, que ce soit les lépreux purifiés, et tout cela accomplissant les signes messianiques qui avaient été annoncés dans l'histoire du salut. Ainsi Jésus se apparaît comme un nouveau Moïse, il apparaît comme le nouveau Josué, il apparaît comme le grand prophète annoncé, il apparaît comme celui qui va donner l'Esprit Saint. Eh bien, de même, la liturgie de la parole nous donne d'entendre les promesses de Dieu dans l'Ancien Testament et de voir leur accomplissement par le Christ et son Église à travers le Nouveau Testament. Ainsi, la liturgie de la parole est constituée par une première lecture, la plupart du temps tirée de l'Ancien Testament, sauf au temps pascal, où ce sont les Actes des Apôtres. Et cette lecture de l'Ancien Testament est en écho avec l'Évangile. Il y a un lien entre la première lecture et l'Évangile. C'est toujours intéressant à réfléchir chaque dimanche, quel est le lien, quel est l'écho qu'il y a entre la première lecture et l'Évangile. La première lecture donc nous manifeste cette progression de l'histoire du salut, les promesses que Dieu fait à son peuple. Le psaume qui suit est une école de prière. C'est la prière juive qui nous est manifestée, inspirée par l'Esprit Saint, une prière qui réfléchit sur l'histoire sainte qui s'est accomplie, où à la fois on rend grâce à Dieu pour son œuvre, mais où aussi on lui exprime nos besoins, où on lui exprime également parfois les peines et la nécessité de l'intervention de son salut pour que nous puissions effectivement vivre. Le psaume est une école de prière où Dieu lui-même, par son esprit, nous donne, j'allais dire, le vocabulaire pour faire monter notre prière vers Dieu. Les psaumes ont souvent beaucoup plus d'audace dans leur adresse à Dieu que nous n'en aurions instinctivement. Celui qui devient familier des psaumes se rendra compte qu'il y trouvera, en fait, tous les sentiments de l'être humain, aussi bien dans la joie, dans l'exultation, que dans la peine, que dans la détresse, et parfois même la revendication, ne comprenant pas comment l'action de Dieu est en train de se dérouler. La deuxième lecture est une lettre des apôtres, ou bien la lecture de l'Apocalypse de Saint Jean au temps pascal. La deuxième lecture est normalement une lecture continue de ces lettres des apôtres, sauf au temps de l'Avent et au temps du Carême, où la deuxième lecture est alors en lien, elle aussi, avec l'Évangile. Tandis que dans le temps ordinaire, on suit la lettre sans rapport direct avec l'Évangile du jour. La deuxième lecture nous manifeste comment la première communauté chrétienne vit de l'enseignement d'une part et de l'esprit d'autre part de Jésus. Voilà, de l'enseignement, ce que Jésus a expliqué, mais aussi de son même esprit, comment ce même esprit est à l'œuvre au sein de la communauté chrétienne. L'Évangile, quant à lui, nous concentre sur la personne de Jésus, le Verbe qui s'est fait chair, et nous donne de l'écouter dans une position qui n'est pas anodine, on l'écoute debout, alors que ordinairement la position de l'enseignement, c'est la position assise, on est assise pour écouter l'enseignement et pour donner l'enseignement. Mais voilà que l'Évangile est écouté et proclamé debout, parce que c'est la parole de vie, la position de vie. C'est la position debout, c'est la position de la résurrection en fait. La position debout s'oppose à la position couchée qui évoque la mort. Debout, c'est l'être vivant, c'est l'être ressuscité par Jésus. La proclamation de l'Évangile est une proclamation d'une parole de vie. Nous constatons que dans les Évangiles, il y a un tournant au moment où Jésus commence à parler de sa passion. Et un tournant qui nous amène jusqu'à le fait de vivre effectivement cette passion. Et l'entrée dans la passion nous amène dans la messe à la liturgie eucharistique. Ce temps de la passion, remarquons-le dans les évangiles, alors qu'il ne représente, on pourrait dire, qu'une semaine de la vie de Jésus, cette dernière semaine de la vie de Jésus, occupe entre le tiers et la moitié des pages de l'évangile. Il y a un temps consacré à la passion qui se déploie beaucoup plus lentement que le reste des 3 années du ministère public. On prend beaucoup de temps pour parler de cette dernière semaine de Jésus et de la passion. La liturgie eucharistique correspond à ce moment où nous sommes rendus présents à la nuit qu'il fut livré jusqu'au jour de Pâques. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, et où l'on communie au corps et au sang du Christ, comme le firent les disciples. Dans la liturgie eucharistique sont concentrés le jeudi saint, le vendredi saint et le dimanche de Pâques. Et puisque nous sommes invités à communier, nous ne sommes pas seulement spectateurs de ce qui s'est passé, mais nous en sommes aussi rendus participants, comme les apôtres en ont été rendus participants. C'est pourquoi, à l'instar du Christ qui, après la résurrection, a dit aux apôtres « Allez par toute la terre, proclamez l'Évangile à toute la création », eh bien le prêtre envoie l'assemblée dans le monde après l'avoir béni. La formule latine « Ite missa est » ne signifiait pas simplement « ça y est, la messe est dite, rentrez chez vous et sortez votre poulet du four, sinon il va brûler », mais « allez, c'est le temps de la mission ». Missa et mission, c'est la même racine. Allez, c'est le temps de la mission. Et lorsqu'on dit en français « allez dans la paix du Christ », c'est pas simplement « allez paisiblement, rentrez chez vous », c'est « aller dans la paix pour la porter au monde ». Rappelez-vous, l'invitation de Jésus aux disciples, dans toute maison où vous entrerez, dites paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, elle ira sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Nous sommes revêtus de la paix du Christ pour aller la porter au monde. » En conclusion, on pourrait dire que, à chaque messe, il nous est donc offert de vivre aux côtés de Jésus. Mais c'est avec nos joies et nos peines actuelles que nous sommes plongés dans le mystère de sa mort et de sa résurrection, jusqu'à communier à sa vie divine. L'Eucharistie est ce pain de la route qui nous fortifie pour être lumière du monde jusqu'à la venue dans la gloire de notre Seigneur. Pour approfondir, je vous invite à l'échange suivant. Puisque la participation à la messe est une façon de vivre un résumé de l'Évangile, puisque la participation à la messe est une façon de vivre ce qu'ont vécu les apôtres, quelle est, à ce jour, la partie de la messe où vous avez le mieux l'impression de vivre et de participer à ce qu'ont vécu les apôtres? Quelle est la partie de la messe où vous avez le plus l'impression d'être uni à l'Évangile, d'être présent avec Jésus? Voilà ce à quoi je vous invite pour l'échange. Par ailleurs, je vous suggère cette chose pour la semaine, c'est de regarder la première lecture du dimanche prochain, ainsi que l'Évangile, et de noter pour vous quels sont les points communs, en quoi on voit un accomplissement entre l'Ancien Testament et l'Évangile. Je vous souhaite de bons échanges.